Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h35, Daniel Riolo est là, Walid Acherchour est là et nous accueillons un des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Si vous êtes jeune, vous n'avez pas connu Maxime Bossis, eh bien vous avez tort. Allez sur.
S'ils l'ont pas connu, ils peuvent rien.
Se rattraper. Il y a du rattrapage possible. On peut avoir les archives. On peut aller sur YouTube.
Max n'en voudra pas de que je lui prenne
une minute. On va d'abord l'accueillir.
Non, mais on a oublié sur deux hermies, question essentielle quand même. C'est est-ce que Mbagna est compatible?
Ah, on verra.
T'aimes trop ça, tu penses qu'à lui.
Maxime Bossis est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être bonsoir, là.
Salut Maxime.
Merci, le plaisir est réciproque d'être avec vous.
Bah voilà, donc, en plus, la façon dont je vous ai présenté, je pense que ça correspond tout à fait à la réalité.
c'est un peu trop élogieux pour moi, mais bon. C'est vrai que toutes les générations ne connaissent pas les anciens, grands ou petits.
Exactement. Je rappelle que Maxime Bossis a été en son temps recordman de sélection en équipe de France.
Oui.
Titulaire indiscutable en défense pendant quoi, près de 10 ans,
hein, latéral,
en
équipe de France.
C'est ça, oui.
Exactement. Le bouquin, c'est le Grand Max.
Parce que c'est un peu son surnom.
Édition Nouvelle Source.
Les commentateurs l'appelaient comme ça, que ce soit Thierry Roland ou Drucker pendant la Coupe du Monde 86. C'est un peu son surnom.
Alors, on a choisi, Maxime, si vous le voulez bien, nous de nous concentrer avec vous ce soir sur l'Euro 84, parce que demain, il y a l'Euro 2024 qui démarre, donc on va pas vous rebassiner ce soir avec Séville ou d'autres événements.
Mais Séville, il s'en souvient plus.
on m'en parle toutes les semaines de Séville.
Mais vraiment, Max, c'est un truc, quand on dit toutes les semaines, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu sors te balader, quand tu croises des gens, c'est quoi en fait, quand on dit ça?
Ouais, quand je croise des gens et qu'on rencontre des supporters de l'équipe de France de la génération 80, qu'ils aient 10 ans ou 30 ans à l'époque, eh bien, au bout de 30 secondes, donc, ils nous abordent gentiment et ils nous parlent du France-Allemagne, de Séville. Évidemment, jusqu'au bout, forcément, les tirs au but, malheureusement pour moi, quoi.
Bon, ben, nous, on n'en parlera pas.
Quand même curieux, Max, parce que le dessin, Si, parce que j'ai pensé à un truc.
On aura une seule question.
D'abord parce que Max m'a confié qu'il a plus jamais tiré de pénalty après ça. D'ailleurs, j'en avais parlé dans le spectacle.
Oui.
Dans le spectacle After remonte le temps. Et ensuite parce que c'est marrant parce que moi je suis fasciné par les tirs au but parce que ça peut changer la vie d'un homme, ça peut le marquer en bien ou en pas bien. Et finalement, alors que c'est toi qui rates le dernier, les gens t'aimaient tellement. Oui. Et en même temps, sur le terrain, tu dégageais quelque chose qui faisait qu'on était toujours derrière toi parce que tu avais une générosité. On ne t'en a pas voulu de ça, alors que ça aurait pu être terrible. On a tellement d'exemples. Et ça m'a fait penser à l'histoire de Didier Six. Tu sais, quand on avait fait notre match à Marrakech, où lui a été marqué à vie, alors que lui, il l'aura avant toi, que c'était récupérable. Eh bien, lui, ça l'a marqué négativement dans sa vie, alors que toi, on vient de taper sur l'épaule, on te dit « Ah, on t'en parle, mais... » De façon peut-être moins tragique. C'est marrant parfois les destins.
Oui, c'est sûr que je pense que Didier a encore un plus mauvais souvenir que moi du tir au but raté à Séville. Les réactions ont été un peu plus mitigées peut-être pour lui, sans savoir exactement pourquoi. Est-ce que c'est un problème de personnalité ou autre? Mais c'est sûr que ça peut marquer un homme à vie. Moi, ça m'a pas marqué sur le terrain. J'ai continué ma carrière, bien que je n'ai plus jamais tiré de pénalty. Mais je sais, pour en avoir parlé avec lui, avec Didier, que lui, ça l'a marqué vraiment très très profondément.
Pour l'anecdote, on a joué un jour un match de médias français contre médias marocains à Marrakech. Didier Six était avec nous, ça s'est terminé au tir au but. Et il a pas voulu tirer. Alors qu'il n'y avait que nous là sur le terrain.
Même un tir au but pour rien du tout.
J'aurais fait la même chose.
Tu te rends compte un peu comment ça peut.
Alors, l'Euro 84, c'est intéressant parce que c'est peut-être la compétition. Il y a eu 2000, il y a eu 98. Bon, c'est peut-être la compétition que la France a finalement le plus dominée. De la tête et des épaules quand on reprend les matchs. Il n'y a pas eu que les matchs faciles, bien sûr, mais enfin, sur la globalité, s'entend, Maxime. Est-ce que vous vous sentiez, en 84, largement au-dessus, vous marchiez sur l'eau, vraiment?
on n'était pas, on se sentait pas vraiment au-dessus de tout le monde, mais c'est la première compétition qu'on abordait en étant favori. Il y avait évidemment les demi-finales, la Coupe du Monde 82. Malgré la défaite, on avait montré qu'on était capable de rivaliser avec les meilleurs. Et là, c'était une compétition en France. On était arrivé avec les joueurs cadres entre 27, 29 ans, 31 ans pour Alain Giresse. Et c'est vrai qu'on se sentait capable de gagner cette compétition. Mais il y avait énormément de pression. On s'est senti au-dessus qu'on a battu la Belgique 5-0 à la Beaujoire. Mais lors du premier match contre le Danemark, gagné péniblement 1-0, on était quand même dans nos petits souliers.
Et tu sais, c'est marrant parce que ce match contre la Belgique, souvent on dit « Ah, ils ont collé 5-0 à la Belgique, ils ont collé 5-0 à la Belgique ». Mais la Belgique du début des années 80, c'est une sacrée équipe, hein. D'abord qui fera demi-finale à la Coupe du Monde d'après, et qui en phase de groupe dans la qualif pour le Mondial 82 finit devant la France. Le football belge du début des années 80, c'est un football qui a plus de Coupes d'Europe que nous, puisque nous on n'en a pas et eux ils en ont. C'est des clubs comme Anderlecht notamment, avec des vrais joueurs, avec les joueurs néerlandais qui beaucoup jouaient dans ce championnat. C'était un championnat qui était supérieur au nôtre, et quand on croisait une équipe belge en Coupe d'Europe, déjà qu'aujourd'hui c'est pas toujours qu'on gagne, mais à l'époque on gagnait pas. Je crois même qu'avec Nantes vous aviez pas galéré contre une équipe belge à Lokeren.
Oui, à Lokeren, on avait galéré. Perdu, je ne sais même pas si on s'est qualifié.
Non,
si on
a été éliminé, je
pense qu'on était. Ouais, on ne s'est pas qualifié comme souvent. Mais c'est vrai que, comme le disait Daniel, c'est avec la Belgique sur le papier avant ce match, et même les années qui précédaient et les années d'après, était une équipe redoutable avec des qualités individuelles de joueurs cités, qui étaient fabuleux. Hein.
Bon, attention, l'équipe de France n'était pas rien non plus, hein. J'ai par exemple la compo face à la Belgique. Bon, bah pardon, il y avait quand même du lourd. Je vous la refais vite fait. Bon, Bats dans les buts, défense Batiston, Bossis, Domergue, Louis,
joueur arrière droit,
Fernandez,
Louis, voilà, ouais. Gengini, Giresse, Platini, Tigana, et puis Six, Lacombe, et le dernier que je n'ai pas donné.
Non, mais
donné.
C'est bon, tu les as tous dit. Bah oui, s'il y avait quatre au milieu, il y avait deux attaquants.
C'est ça. Voilà. Et Michel Blanc, j'ai Michel Platini que j'ai pas cité.
Si, tu l'as dit.
Bah si.
Oui, Michel Platini, oui, c'est un petit
oubli. Ils avaient ressorti.
Intéressant la position de Platini pendant l'Euro 84, parce qu'il marque, il finit à 9 buts. Donc meilleur buteur de l'Euro, 9 buts en 5 matchs, hein, parce que en gros et en fait il était
c'est
quand
un record
même,
qui sera très très dur à chercher, je pense, hein.
Il était très offensif. Aujourd'hui il y a le débat sur Mbappé en 9 et tout là, au Griezmann, comment, où est-ce qu'on le met. Platini, bon, en fait il était devant, quoi.
Ouais, il était devant. C'était un 9,5, un 10 à la base. Hein. C'était pas un attaquant de pointe. Il n'en avait pas toutes les qualités, mais il était tellement adroit qu'il pouvait éventuellement jouer un peu plus devant. En plus, l'équipe jouait aussi pour lui. Et des joueurs très offensifs comme Giresse, Gengini, avant notamment, se permettaient de revenir défendre pour lui donner le ballon dans les meilleures conditions. Et donc, on savait très bien, surtout en 84, où c'était la première compétition. Il n'avait pas de petites blessures. Il était au summum de sa force et donc de sa forme aussi. Et donc, il fallait éventuellement le mettre dans les meilleures conditions.
Toi, Max, tu étais considéré quand même à l'époque et très justement un des meilleurs défenseurs au monde. Rappelons quand même que tu viens de l'école nantaise et qu'à l'époque, oui, ça voulait dire quelque chose. On parlait tout à l'heure de deux Herbi qui arrivent à l'OM, donc des styles de jeu. C'est des débats qui animent beaucoup les connaisseurs. À l'époque, il n'y avait pas d'émission comme la nôtre. Il y avait un journal qui parlait de foot et les débats sur le jeu, il y en avait peu. Néanmoins, autour de Nantes, il y avait véritablement un mouvement d'appréciation du style que vous aviez. Ça t'a marqué, évidemment, parce que tu étais un défenseur qui n'hésitait pas à dépasser sa fonction. On le voyait en équipe de France et encore plus avec Nantes. Ce serait bien si tu nous rappelais à l'époque comment vous étiez perçu.
Oh, c'était l'époque pour les nostalgiques supporters nantais du fameux jeu à la nantaise, où on pouvait allier le plaisir de jouer ensemble, également les résultats. Alors un petit peu moins malheureusement au niveau européen, mais au niveau national, où on a été plusieurs fois champion, terminé souvent second quand on ne l'était pas. Et c'était surtout le plaisir de démarquer le partenaire, de penser d'abord aux autres, aux coéquipiers, avant de penser à soi, ce qui n'empêchait pas quelques actions individuelles. Et me concernant le rôle des arrières latéraux, avec Arribas et surtout après Suedo et Jean-Vincent, il y a eu un changement dans ces années 70 et milieu des années 70, où auparavant, les latéraux, dans les petites équipes, par exemple, on les mettait souvent à ce poste-là parce qu'ils étaient pas bons techniquement. Et on nous disait, même au niveau professionnel, une fois passé le milieu de terrain, c'est fini, vous donnez le ballon et puis vous vous replacez pour marquer l'attaquant. Et donc, il y a eu vraiment un changement. Pendant quelques années, on a été quelques Français, et j'ai cette fierté-là à changer un peu le rôle de latéral. Et puis, il y avait également de très bons latéraux dans d'autres équipes. Je pense à Cabrini, à Junior, le Brésilien, à Kals, évidemment, en Allemagne. Et donc, ça a été, c'est une belle période où le poste a vraiment changé en 5-10 ans.
Oui, t'étais pas le seul. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de latéraux qui montaient comme ça.
Mais il y avait Jean-Vion, Baptiston en France, Amoros après. Il y avait les Nantais, Tussaud et Ayache. Et donc, c'était vraiment des joueurs qui étaient capables de faire autre chose, qui savaient défendre, mais qui pouvaient faire aussi autre chose et aider l'équipe dans le jeu à la nantaise de l'époque.
Walid Acharchour, qui aurait pu être le fils de Maxime Bossis.
Oui, en parlant de jeu, je regarde les années, là, c'est l'année de naissance de mon père, sur les joueurs. Donc, Maxime, je voulais te poser la question sur le jeu, pour faire une transition, par rapport au football actuel et par rapport à notre équipe de France. Qu'est-ce que tu penses, toi, la 84 était une référence. Nous, on a eu une transmission sur le carré magique de 84. Est-ce que aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe de France, qu'est-ce que tu penses de ce qui se produit sur le terrain? Est-ce que parfois t'es frustré un peu comme nous ou non?
Parfois, je suis frustré, évidemment, si je me réfère à ce qui se passait il y a 20, 30 ans, ou la génération, parfois aussi, 98-2000. Mais il faut d'abord, aujourd'hui, dans un football qui a beaucoup évolué, penser aux résultats, être pragmatique, à l'image du sélectionneur Didier Deschamps. Et donc, je pense qu'il utilise les joueurs de la meilleure façon qui soit, avec des joueurs capables de faire la différence quand il y a de l'espace. Je pense à Dembélé, à Mbappé. Et donc, c'est un jeu, je crois, qui convient très, très bien à l'équipe de France, qui n'est jamais plus dangereuse que quand, parfois, elle laisse venir l'adversaire, parce qu'en deux ou trois passes, elle peut aller au bout et faire parler la poudre et marquer. Donc, au niveau du jeu, j'aimerais retrouver ce que j'ai retrouvé avec la Grande Espagne il y a quelques années, avec même l'équipe de France des années 80
ou 2000. Oui, parce que c'est
2000.
Ton identité de jeu, c'est ça. Et le pire, c'est que Deschamps, il vient de là. On oublie trop souvent que Nantes, que Deschamps, il vient de Suedo, hein.
Bien sûr, il vient de Suedo, mais il a pu acquérir très très vite la culture de la victoire. Il est parti jeune de Nantes, joueur, il a absolument tout gagné. Après, il est parti aussi en Italie, et donc il a persévéré en tant qu'entraîneur. Et pour lui, la victoire compte plus que tout. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'aime pas le beau jeu. Quand on arrive de Nantes, qu'on a été formé à Nantes, forcément qu'on aime le beau jeu, mais seulement il l'adapte aux joueurs qu'il a avec leurs qualités. Et parfois, peut-être aussi un petit peu leur faiblesse technique pour certains.
Je pense que la Juve est là au final beaucoup plus marquée que Nantes, mais bon, après, chacun sait. Chacun sait une référence, quoi.
Maxime, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la défense de l'équipe de France? Les latéraux, les défenseurs centraux, quand vous les voyez, vous dites bon, c'est du niveau mondial de ce qu'on avait à l'époque en 84, ou alors vous avez des doutes?
Des doutes, non, parce que ce sont tous des joueurs costauds, même si certains ont eu des saisons compliquées. Par contre, il ne se dégage pas forcément une défense type. Mmh. Il y a toujours, il y a ou pas Mécano dans l'axe, qui, malgré quelques soucis, va rester.
Aujourd'hui, on parle de Saliba. Mais il paraît que Saliba pourrait être titulaire.
Voilà, on parle de Saliba qui a marqué des points lors du dernier match ou des derniers matchs par rapport à un Kanté. Théo Hernandez n'est pas si mal, mais il y a aussi Fernand Mendy. Donc on a de la peine quand même à dégager une défense type, ce qui n'est jamais très très bon, mais on n'encaisse pas beaucoup de buts malgré tout.
Dans quelques instants, Maxime, on aura Nicolas avec nous. Il a lu le livre et il veut intervenir. Et puis on reparlera de l'Euro 84 encore pendant quelques minutes. On se retrouve tout de suite dans l'after.